BPM Vernon 99.3.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de BPM et c'est l'heure de votre émission proposée par le CCAS et animée par un groupe de seniors de Vernon et en collaboration avec la radio. Nous sommes en compagnie de René, Liliane, Marie-Ange, Monique, Michel et moi Sylvaine. Nous recevons aujourd'hui l'association Habitat et Humanisme avec Sandra Dutilleul, responsable de la résidence intergénérationnelle sur Vernon, et son directeur, Johan Pitt, association qui s'occupe entre autres de loger les personnes en difficulté. Bonjour Madame Dutilleul.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Pitt.
Bonjour.
Monsieur Pitt, pouvez-vous nous présenter votre association ?
Alors oui, Habitat et Humanisme est une association qui rayonne sur le département de l'Eure, qui s'occupe essentiellement d'insérer des personnes par le logement. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on essaye de proposer des solutions de logement à des personnes qui n'auraient pas accès au logement, soit dans le parc social, soit dans le parc privé, parce que des difficultés de ressources, des difficultés d'insertion professionnelle ou des choses comme ça. On essaye de proposer des solutions adaptées. On utilise plusieurs outils, les résidences. Donc on a une sur Vernon, on a une pension, qu'on appelle une pension de famille, et une résidence intergénérationnelle que dont Sandra s'occupe. On a aussi une pension de famille sur les Andelys. Ça s'adresse à des publics un petit peu différents. Dans les pensions de famille, on va essentiellement accueillir des personnes, on va dire, qui viennent plutôt de la rue ou qui ont des parcours de vie très accidentés, et donc qui vont pouvoir poser dans les pensions de famille leur bagage et y rester le temps qu'elles souhaitent. La résidence intergénérationnelle, Sandra en parlera tout à l'heure, je pense. Et on travaille aussi avec des logements qui sont dans le parc social ou qui nous sont confiés par des propriétaires solidaires. Et là, on peut loger les gens pour en général 2 ans avant qu'ils puissent retourner vers du logement dit autonome, c'est-à-dire avec un bail à leur nom. Merci.
Merci. Je passe la parole à Liliane.
Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour.
Où êtes-vous situé à Vernon ?
Alors, la résidence intergénérationnelle a été construite dans le quartier, le nouveau quartier Fieschi, qui est dit éco-quartier. Et on se situe à proximité d'un collège et des locaux, notamment de France Travail.
Et la pension de famille est avenue de Rouen.
Quelle est l'origine de votre association et comment s'est implantée l'antenne locale ?
Donc, l'origine de l'association Habitat Humanisme, elle était fondée par Bernard Devers, qui est un ancien promoteur immobilier de la région lyonnaise et qui a fondé pour aller très vite cette association suite à un programme de démolition de logements qu'il a dû réaliser. Il a rencontré une personne qui a raconté tous les malheurs que ça lui procurait de devoir être logé. Et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'inhumain dans la façon de faire du relogement en France. Et c'est de là qu'est né Habitat Humanisme. Dans le même temps, Bernard Devers est devenu prêtre aussi. Oui, ça fait partie de... Oui, non, mais il y a une histoire riche et épaisse au mouvement. Et rapidement, pour développer l'association, s'est posé la question des financements. Et c'est là qu'Habitat Humanisme s'est rapproché du secteur bancaire pour développer des produits d'épargne solidaire. C'est une des premières associations à disposer de produits d'épargne solidaire. C'est rapidement doté de ce qu'on appelle une foncière. Alors une foncière, c'est quoi ? C'est une société qui permet d'acheter des terrains pour construire des logements, si on résume. Et c'est comme ça que le mouvement est parti. Après, comment est né Habitat Humanisme ? D'abord en Seine-Maritime, ça c'est sûr, qui a essaimé dans l'Eure et l'Eure s'est autonomisée. Ça, j'ai pas l'historique précis, mais en gros, l'association de l'Eure était d'abord hébergée en Seine-Maritime, puis après a volé de ses propres ailes, si on résume.
Avec votre structure, à qui vous adressez-vous ?
On s'adresse à toutes les personnes qui peuvent être à un moment donné en difficulté par rapport à leur logement. Alors, par contre, pour pas créer d'ambiguïté, parce qu'il y a des gens qui vont écouter l'émission, on est relié à un certain nombre de dispositifs. C'est-à-dire que on décide pas tout seul de qui on aide et de qui on n'aide pas. Un ensemble de règles pour être sûr d'avoir une réponse équitable, si vous voulez. C'est pas parce que vous me connaissez que je vais pouvoir vous trouver un logement demain matin. Ça pourrait être formidable, mais en même temps, ça serait relativement injuste par rapport au nombre de gens qui peuvent avoir des problèmes en urgence liés au logement. Donc tous les dossiers, la plupart des dossiers plutôt, doivent passer par une plateforme qui s'appelle le SIAO, alors c'est un peu du jargon. Mais pour ça, il faut rencontrer un travailleur social, en fait, exposer la difficulté. Ce travailleur social remplira un dossier dit SIAO, et ensuite, nous, on sera saisi, mais les autres acteurs du logement d'insertion aussi. Et c'est celui qui aura la meilleure réponse au regard du besoin qui assurera l'accompagnement de la famille.
Voilà. Comment vous faites-vous connaître par les personnes en difficulté?
Alors, on se fait connaître soit directement par les forums d'associations, justement, soit en travaillant beaucoup avec les travailleurs sociaux du SIAO, du département, de la CAF, enfin, etc.
Maintenant, je laisse la parole à Monique.
Bonjour.
Monique.
Travaillez-vous seul ou en lien avec d'autres structures locales? Alors, vous avez un peu répondu à ma question, hein, mais je la pose quand même.
Sandra, je pense, peut aller un peu plus loin là-dessus, parce que justement, le projet de résidence intergénérationnelle, pour fonctionner, s'appuie vraiment sur le tissu local.
Oui, donc, puis je connais, je suis venue à Bellamira. Oui.
En plus.
En plus, donc je connais la.
Donc vous pouvez faire la question et la réponse, en fait.
Mais j'ai travaillé la question.
C'est déjà très très bien. Oui, la résidence intergénérationnelle a aussi une particularité, c'est d'être un espace de vie sociale. Un espace de vie sociale, pour résumer, pour vraiment schématiser et pour que tout le monde puisse comprendre simplement, c'est la petite sœur du centre social. Elle a des missions qui sont équivalentes, mais à une échelle inférieure. On a moins de moyens, mais on fait en sorte de répondre aux besoins de la population. Et l'idée de cette résidence intergénérationnelle avec cet espace de vie sociale, c'est vraiment non seulement créer un accueil inconditionnel et de pouvoir répondre aux difficultés de certains, des habitants du quartier. Et ça passe surtout par la lutte contre l'isolement. Donc nos portes sont ouvertes et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille en partenariat, notamment avec les résidences autonomie, mais bien d'autres aussi, d'autres associations. On a quelques professionnels qui nous accompagnent sur des thématiques, notamment nutritionnistes, des médiatrices végétales, entre autres, qui nous permettent de proposer des activités quasiment tous les jours, hein, ouvertes à tous, pour justement lutter contre l'isolement et créer un cadre convivial pour que les gens sortent de chez eux et ne soient pas seuls.
Chaque année, combien de familles bénéficient de vos services?
Alors, on est une structure qui est relativement récente. La résidence a ouvert en 2019. Hein, l'espace de vie sociale a le même âge. On a souffert, comme tout le monde, du passage du Covid. Les actions, l'ouverture vers l'extérieur a réellement commencé en début 2022. Donc, c'est tout récent. Aujourd'hui, on a donc 40 habitants dans la résidence intergénérationnelle et c'est à peu près l'équivalent de personnes de l'extérieur qui viennent pousser les portes de l'espace de vie sociale.
Quelle est la durée de cette prise en charge?
Pour tous les publics qui rentrent chez nous, que ce soit les locataires ou les personnes qui viennent passer un moment simplement, il n'y a aucune limite. La seule population qu'on accompagne sur une durée déterminée, ce sont les familles monoparentales. Ils entrent chez nous dans des logements et sont accompagnés pour 2 ans par une assistante sociale afin de lever tous les freins qui les empêchent d'avoir immédiatement un logement autonome. Et du coup, c'est cette seule population-là qu'on accompagne sur 2 ans. Les autres restent autant de temps qu'ils le souhaitent.
Comment accompagnez-vous les familles au quotidien?
J'aime à dire qu'on a, grâce à tous, créé une ambiance familiale, conviviale. Ça passe par le café du matin. En fait, l'habitude est prise pour les habitants de la résidence, mais aussi du quartier, de venir à des temps qui sont formalisés sur des temps d'activité l'après-midi. Mais il n'est pas rare que le matin, j'ai des petites visites de retour de course. On vient vous faire un coucou, on prend un café, on discute.
Le café est très bon.
Ah, et ben, il faut revenir. Et les portes, voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir être présente. Je pense que l'atout principal de la résidence, c'est apporter une écoute, une présence. Et puis après, les moments se créent naturellement d'humain à humain, tout simplement.
Ben merci, je vais passer la parole à Marie-Ange. Merci. Il y a plein de questions à vous poser.
Maintenant, nous aimerions vous poser des questions plus détaillées. On comprend que vous œuvrez dans une structure importante qui est présente sur tout le territoire. Vous offrez plusieurs possibilités pour lutter contre l'isolement et la précarité, mais aussi pour reloger les familles. Pouvez-vous nous décrire un cas concret afin que les auditeurs puissent percevoir l'utilité de vos services?
Du très très concret. C'est difficile, un cas concret, parce qu'il y a beaucoup de... On va dire qu'il y a beaucoup d'histoires différentes et singulières, même si... Si on regarde les choses avec un peu de distance et qu'on prend du recul, plutôt que de parler d'un cas concret, c'est de plutôt faire comprendre aux auditeurs que ce que moi ça fait un an et demi à peu près que je suis directeur de l'association. Et ce que j'en ressors, c'est que la plupart des personnes qu'on arrive à accompagner sont des personnes qui ont plutôt des histoires de vie, j'allais dire, très ordinaires au départ, comme vous et moi. Un jour, une séparation, un jour, une perte d'emploi, les repères se brouillent, parfois, une rencontre avec l'alcool à ce moment-là, et c'est tout qui dévisse. Et ça va extrêmement vite. Alors pourquoi je parle de ça plutôt que de répondre concrètement sur une situation concrète ? Non, non. Le message, c'est vraiment de se dire, c'est monsieur et madame tout le monde. Sauf qu'à un moment donné, il y en a parmi nous qui ont des points d'accroche autour d'eux, qui sont là. Et dans ces moments-là, ils vont être rattrapés par le tissu familial, par le réseau amical. Il y en a pour qui il y a moins de points d'accroche. Soit parce qu'ils sont partis pour des raisons professionnelles, soit parce que les relations familiales étaient brouillées ou des choses comme ça. Et là, ça glisse très vite. Mais quand je dis très vite. C'est 3 mois, c'est 6 mois. Et on est à la rue. Et ce que le message à faire passer dans ces moments-là, c'est qu'à la première difficulté de cet ordre-là, il faut se rapprocher du 115 pour mettre en place les solutions le plus tôt possible. Il faut, quand on est en difficulté pour payer son loyer, aller voir l'assistante sociale tout de suite pour dire voilà, là j'ai un problème. Parce que là, on peut agir. Encore, quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs du logement d'insertion. C'est pas que Habitat Humanisme. C'est-à-dire que tout à l'heure, Sandra a répondu sur le travail partenarial de la résidence intergénérationnelle sur Vernon. Mais tout ça, c'est une grande chaîne. C'est-à-dire que c'est une grande chaîne des 58 associations nationales. Mais sur le département de l'Eure, on est plusieurs. Je pense à l'association L'Abri, je pense à l'association ISOS. On est plusieurs à agir là-dessus. Et on travaille un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'on fait à peu près la même chose, mais un petit peu différemment. Et donc, du coup, plus tôt la situation est repérée, plus tôt on peut déclencher des choses. Plus on attend, plus c'est compliqué. Donc plutôt que voilà répondre concrètement, après, des situations, ce qui me viendrait spontanément là, c'est plutôt l'année dernière, on a eu des sorties de maisons relais, par exemple, de gens dont je parlais tout à l'heure, qui ont des histoires très très cabossées. Ben, on en a 3 l'année dernière qui sont repartis, après plusieurs années passées avec nous, vers des logements autonomes. Donc 2 dans des petites maisons et une personne qui est partie en résidence autonomie. Donc c'est beau, ouais. La satisfaction, elle vient de là. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un qui reprend son envol, on n'est pas là pour les... Ils sont les bienvenus, bien sûr, mais on n'est pas là pour les garder à demeure. Et quand ils sont prêts, ils revolent de leurs propres ailes.
Aussi vite que ça peut être compliqué d'avoir une difficulté et de cumuler et de se retrouver en grosse difficulté si on n'est pas bien entouré, ça peut aussi aller très très vite que de remonter la pente si on est bien accompagné.
Tout à fait.
Donc plus vite on réagit et plus vite la sortie est proche.
Vous avez été retenu par le centre commercial Leclerc de Vernon pour sa course solidaire. Vous avez donc reçu une donation pour aider l'association. D'une part, comment avez-vous été sélectionné ? Et d'autre part, quels sont vos projets à ce sujet ?
Alors la démarche de Leclerc s'est faite, j'ai eu contact avec eux au moment du forum des associations. Il avait déjà été évoqué la question des courses solidaires avec la personne qui était là avant moi. Et le Covid est passé, donc du coup, ça a été reporté. Et donc, j'ai rencontré le directeur du Centre Leclerc au Forum des associations, avec qui on a échangé et qui m'a parlé de ce projet. Et donc, bien sûr, j'ai été très enthousiaste à cette idée. Ça aurait été, voilà, au contraire, aurait été difficile à croire. Et donc, du coup, il nous a invités à la séance de présentation avant l'organisation des courses. La deuxième question, c'était pour les projets, c'est ça ?
Voilà, quels sont vos projets ?
Alors, ils ont évolué depuis qu'on s'était rencontrés la première fois avec Leclerc, puisqu'on continue d'avancer et puis on recherche des financements à droite et à gauche dès que possible. Donc, au moment de la remise, j'ai évoqué un projet de voyage, de vacances avec nos habitants. Donc le chèque va contribuer au départ en vacances et ça sera la première fois qu'on organise des vacances pour nos bénéficiaires de la structure.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je vais passer la parole à René.
Avec votre structure, vous souhaitez aussi amener les enfants et familles en vacances. Comment allez-vous faire ?
Pour ce premier projet de vacances que je viens d'évoquer, oui, puisque c'est une première et que ça sera aussi une sorte de test, parce qu'on a un partenariat avec une autre association, Habitat Humanisme, mais du coup, dans le Pays Basque, on est en train de travailler sur un projet qui s'appelle, une destination qui s'appelle Belloc, une abbaye. Et donc, on est en train de travailler avec les seniors de la résidence et du quartier pour ce premier voyage en vacances. Après, effectivement, nous allons, une fois qu'on aura fait ce test, proposer un deuxième séjour avec une ouverture plus large sur les publics, notamment les familles avec enfants. Et là, on fera d'autres démarches de recherche de financement, notamment, on sait qu'il existe des choses du côté de la CAF, on a aussi la NCV hein, pour les chèques vacances, donc il y a de nombreux dossiers à monter, mais ce sera à nous d'aller rechercher les financements possibles.
Quelles sont vos sources de financement ?
Elles sont multiples.
Cette association, qu'elle puisse continuer à vivre.
Je pense que Johan, tu peux répondre.
Alors, à l'échelle de l'association, les sources de financement sont diverses. C'est-à-dire que les premiers postes de financement, voilà, c'est les dons, les cotisations, et de façon parfois pour nous un peu étonnante, les legs. Il arrive que des personnes que nous, on ne connaît pas personnellement, nous fassent des legs. Alors, soit ils nous lèguent de l'argent, oui. Directement.
Le but.
Soit ils nous lèguent des logements. Ils souhaitent que l'association prenne en gestion leur maison. Alors, c'est toujours un petit peu étonnant pour nous, parce que on s'attend jamais à recevoir d'un coup un coup de fil d'un notaire qui nous dit « faut qu'on se voit, on a reçu un legs pour vous. La dernière fois, une personne a donné 100 000 euros à Habitat Humanisme. » Alors,
donc, c'est que vous êtes connu.
On est connu, mais oui. Alors, on est connu et pas connu en même temps. C'est-à-dire qu'on se rend compte après, quand on détricote, qu'on est connu de petits milieux oui. qui, entre eux, parlent et ça finit comme ça. Mais on pourrait être plus connu aussi, parce que au niveau national, si on se compare à d'autres associations de même taille, par exemple, comme les Petits Frères des Pauvres, on reçoit 4 fois moins de legs. Alors, c'est pas un concours, mais oui. ça permet de se rendre compte, voilà, oui, on est connu, mais on est beaucoup moins connu que cette association-là, mm-hmm. par exemple. D'accord. Voilà. D'accord. Autre source de financement, et ça dépend des associations Habitat Humanisme sur le territoire. Nous, on travaille beaucoup avec la préfecture de l'Eure, la DDETS, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ça y est, je l'ai, dans le cadre de ce qu'on appelle l'intermédiation locative. Alors, pour faire simple, c'est quoi l'intermédiation locative ? C'est que nous, on prend en location un logement qu'on sous-loue à quelqu'un qu'on accompagne, dans le cadre de l'accompagnement. Et pour ça, on est financé par l'État, parce que ça nous coûte de l'argent. Hein. C'est du travail social, du travail de gestion, des risques d'impayés de loyer qu'on prend sur nous. Donc voilà, donc des sources de financement à la fois privées mmh. et publiques, et dans le budget de l'association, grosso modo, c'est 50-50.
À qui appartiennent les logements ?
Alors,
vous gérez ?
Une partie aux bailleurs sociaux, une partie, comme j'ai dit tout à l'heure, à la foncière d'Habitat Humanisme, c'est le cas de la résidence, par exemple, et une partie à des propriétaires privés avec qui on signe des conventions. Pour faire simple, en gros, c'est des conventions de 6 ans. Au bout de 6 ans, on revoit le propriétaire. Enfin, on se voit plus souvent avec les propriétaires. Mais au bout de 6 ans, on se repose la question ensemble. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous voulez récupérer votre logement ? Et voilà comment on a nos logements. Donc,
travaillez-vous avec beaucoup de bénévoles, pardon, et quels sont leurs rôles dans l'association ?
Alors oui, on travaille avec beaucoup de bénévoles. Aujourd'hui, dans l'heure, c'est, on va dire, 35 bénévoles très actifs, qui d'une façon ou d'une autre sont présents dans différentes fonctions de l'association, plusieurs fois par semaine, quand je dis très actifs. Et c'est un noyau de entre 50 et 60 bénévoles. Donc, quelles sont leurs fonctions ? Alors, là, vraiment, je vais forcément en oublier en route. Vous avez du bénévolat au niveau de l'administration de l'association, donc ce que je disais tout à l'heure, le président, le trésorier, secrétaire, etc. Et tous ces gens-là font tourner l'association au quotidien, par les réunions de conseil d'administration, de bureau, et prennent l'ensemble des décisions qui pilotent la vie de l'association. Vous avez des bénévoles impliqués dans la vie des résidences, soit directement, soit en tant que ce qu'on appelle bénévole référent. Et là, ils forment un binôme avec le salarié de la résidence sur la vie de la résidence. Nous avons des bénévoles qui nous donnent main forte sur l'accompagnement social, en binôme avec les travailleurs sociaux. Vous avez des bénévoles bricoleurs, donc qui, eux, vont nous permettre de maintenir en état les logements sur tous les travaux qu'ils sont en mesure de faire.
Éviter que ça se détériore.
Tout à fait. D'accord. Bénévoles bricoleurs, il nous faut, parce qu'en ce moment, on n'en a plus beaucoup, des bénévoles déménageurs, oui. parce qu'on a des déménagements à assumer avec des familles qui n'ont pas forcément les ressources pour bah, louer un camion de déménagement ou des choses comme ça. Oui, on cherche tout le temps des bénévoles, c'est différentes missions. Voilà. Et c'est vraiment très, très varié. Et généralement, quelqu'un qui se présente pour faire du bénévolat arrive à trouver une place dans l'association pour faire quelque chose. D'accord. On a en plus la possibilité d'accompagner nos bénévoles dans des programmes de formation qui sont mis en place par la fédération. Donc, même un bénévole qui voudrait, j'allais dire, s'aventurer dans quelque chose qui n'est pas forcément son ancien métier ou des choses comme ça, mais qui l'intéresse, il peut être formé par la fédération sur telle ou telle D'accord. chose.
On a également des bénévoles qui interviennent sur les actions collectives. Oui. Notamment, je pense à une qui propose des randonnées. Mmh. Donc, selon le temps dont elle dispose, elle nous prépare un circuit et nous emmène en balade ou en fonction des capacités de chacun. Donc, soit c'est des petites promenades, soit c'est des
avec
bonnes randonnées.
Avec les familles, bien sûr. Mmh. Avec les familles. Familles ouais. D'accord.
Donc, on a aussi ce genre de bénévoles.
Merci d'exister.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je passe la parole à Michel.
Bonjour.
Bonjour. Michel.
Vous nous avez déjà parlé de l'habitat intergénérationnel Bella Mira au quartier Fieschi, où vivent ensemble personnes âgées et mères célibataires. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, notamment sur le ressenti des gens concernés?
Alors, je fais juste une petite précision. On a également d'autres. On a une autre catégorie dans notre résidence intergénérationnelle. Ce sont trois publics, donc les seniors, les familles monoparentales, dont les réfugiés. Et on a également des ménages dits ordinaires. Ce sont des logements sociaux comme on en trouve partout ailleurs, couples avec enfants, des gens qui travaillent. Et ça fait un équilibre aussi dans la résidence, donc c'est important de les mentionner parce qu'ils contribuent largement à la dynamique de la résidence. Comment ça fonctionne? J'aime à dire que le passage du Covid, qui a fait beaucoup de dégâts, a eu cet avantage dans la résidence de déclencher les solidarités naturelles, là où ça a été compliqué, et l'entraide est née naturellement à cet instant-là. De ce qu'il en ressort, je vais faire parler les habitants, qu'ils me disent et qu'ils me font remonter souvent, c'est comme à la maison. On se sent bien, et les gens du quartier qui viennent plus ponctuellement reviennent parce qu'il y a cet esprit familial.
Pour conclure, comment peuvent faire les auditeurs pour vous contacter et adhérer à l'association? Pouvez-vous nous communiquer vos coordonnées?
Alors bien sûr. Alors, le numéro de téléphone, voilà, le 02 32 07 03 00. L'adresse mail, c'est heure@habitat-humanisme.org. Voilà, pour rentrer en contact avec nous, c'est ça. Pour adhérer, alors vous pouvez nous contacter si vous souhaitez plus d'informations, on vous répondra toujours avec plaisir. Pour adhérer, il faut remplir un bulletin d'adhésion. L'adhésion annuelle est à 28 euros. Mais ça, on peut vous l'envoyer par mail. Et vous pouvez nous demander par mail aussi d'être abonné à la newsletter qu'on vous enverra après gentiment pour voir, vous soyez informé de ce qui se passe dans l'association. Voilà.
J'allais vous demander si vous aviez besoin de bénévoles, mais au travers de ce que vous venez de dire, je pense que vous en avez besoin.
Toujours.
Et qu'il n'y a pas de critères particuliers, simplement de la bonne volonté, j'imagine.
La bonne volonté et l'envie de fonctionner en équipe. C'est-à-dire que le bénévole chez nous, il n'est jamais tout seul. En fait, il est ou avec d'autres bénévoles sur des projets, ou avec des salariés sur des projets, ou au contact de famille dans l'accompagnement. Donc voilà, il faut avoir quand même envie d'être en relation avec d'autres personnes. Mais si on réunit les deux, et il n'y a pas de... Oui, par rapport au bénévolat, il n'y a pas de petit investissement, c'est ça que je veux dire. On peut avoir des bénévoles qui nous disent, ben voilà, moi je suis disponible, je dis n'importe quoi. Dans les trois prochaines semaines, si vous avez un déménagement, je viens vous donner un coup de main, mais après, on se reverra peut-être que dans trois ou six mois. Et c'est pas grave, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de se marier à l'association. Par contre, il faut le dire au départ, et puis comme ça, on voit ce qu'on peut faire ensemble.
D'accord. Une dernière question, est-ce que vous serez présent au forum des associations à la rentrée?
Alors, si je respecte le délai qui m'a été donné par la ville de Vernon, c'est-à-dire demain, et comme demain je viens en Vernon pour les assises du social, je pourrai ramener la fiche d'inscription. Donc oui, nous serons présents au forum des associations.
Donc on vous y retrouvera avec plaisir.
Avec plaisir.
Merci Madame Dutilleul, merci Monsieur Pitt de nous avoir accordé du temps et d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Notre émission se termine, passez une excellente journée et à très vite sur BPM.
BPM Vernon 99.3. 99.3.